Donc nous allons entamer cette deuxième partie de matinée avec Hugo Bellagamba, qu'on remercie d'être venu de Nice. On peut l'applaudir, oui, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, Hugo ? Voilà. Non, parce que tout à l'heure, Jérôme Vincent dit que Hugo était le plus grand d'entre nous. Donc je voulais vérifier, mais oui, effectivement, il est plus grand que moi. Il n'y a pas de souci. Alors, Hugo, vous faites des choses très sérieuses dans la vie. Vous êtes un universitaire, spécialiste en histoire du droit et des idées politiques. Vous enseignez donc à l'université Nice Sophia Antipolis. Et vous vous intéressez toujours de près à l'utopie, à l'Uchronie et à l'histoire de la science-fiction elle-même, y compris d'un point de vue justement sérieux, puisque je crois que vous avez des travaux en cours sur le droit dans les utopies. Donc, qui est quelque chose, on imagine, d'assez costaud. Vous avez été, alors, pour ce qui nous intéresse, donc, comme je viens de le dire, vous intéressez à la science-fiction, à l'utopie, aux uchronies, et vous avez été aussi directeur artistique des Utopiales de 2012 à 2015. C'est donc les Utopiales, une des manifestations les plus importantes en France, on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous connaissez très bien le milieu de la science-fiction. Et des littératures de l'imaginaire. Et vous êtes également, vous avez plein de casquettes, en fait, auteur de plusieurs romans. Vous êtes auteur de nouvelles et de récits aussi. Vous écrivez notamment des nouvelles sous le pseudonyme de Michael Reiss. Et puis, donc, vous avez écrit ce roman uchronique qu'a évoqué rapidement tout à l'heure Jérôme, qui s'appelle Tancred. Qui est l'histoire de ce chevalier normand de Sicile, Tancred de Hauteville, qui va partir à la première croisade fin du XIe siècle, qui est un personnage historique qui a vraiment existé. Et donc, il est parti dans cette croisade. C'était quelqu'un qui avait une certaine éthique, une certaine morale, qui voulait effectivement, lui, porter des valeurs chrétienne digne et noble, et au cours de la croisade, il s'est aperçu que évidemment un certain nombre de croisés n'étaient pas là pour cette morale digne et noble, mais plutôt pour des questions entre autres de pouvoir ou d'enrichissement, et c'est là que vous imaginez un point de divergence. Ce personnage qui a été décrit comme ça par les historiens, très, très droit, va basculer parce que lui, il veut le rassemblement de l'Orient et de l'Occident. Et donc, pour essayer de se faire, pour garder sa morale, il va basculer et il va passer avec armes et bagages dans le camp adverse, dans la célèbre secte des assassins, revêtir leur habit noir. Et à partir de là, on rentre dans une uchronie qui mélange effectivement faits historiques et inventions de votre part. Alors, on est là pour discuter justement des rapports entre l'histoire et l'uchronie, entre la littérature et l'uchronie également. D'abord, l'histoire, est-ce que c'est quelque chose de figé ? Est-ce que c'est pas non plus une patte littéraire, finalement, qui se prête presque par nature et par essence à la littérature ? Parce qu'on apprend... souvent, on dit qu'on apprend l'histoire dans des manuels, donc c'est quelque chose de très sérieux. Et donc, on a l'idée, je pense, pour la plupart d'entre nous, d'une matière intangible. Or, quand on regarde le travail des historiens, il y a quand même plein de modifications, de visions d'histoire, des choses qu'on apprend, soit parce qu'on n'avait pas les matériaux à l'époque pour avoir tel ou tel aspect de l'histoire. Et c'est quelque chose qu'on... moi, j'ai l'impression qu'on, avec lequel on fait facilement du storytelling, comme on dit aujourd'hui. On nous raconte des histoires, on parle du roman national. Hein, comment on raconte une histoire qui nous lie tous et qui n'est peut-être pas forcément l'histoire réelle. Il y a des débats sur les devoirs de mémoire ou devoirs d'histoire. Est-ce qu'il faut se souvenir et de quoi on se souvient, ou est-ce qu'il vaut mieux enseigner l'histoire pour pouvoir réfléchir dessus? On a aussi tous les débats qu'on a eus, par exemple, encore récemment, sur de quel point de vue on se place. On raconte souvent l'histoire des vainqueurs. Et récemment, on a eu, vous avez, je pense, suivi tout le débat sur le colonialisme. Est-ce qu'il faut revoir l'histoire à l'aune de cet aspect-là? Donc voilà, est-ce que l'histoire, déjà, en elle-même, n'est pas finalement une patte littéraire idéale pour la littérature?
Oui, alors d'abord merci de cette présentation. Ravi d'être parmi vous, d'être à Chambéry, dans la patrie de Jean-Laurent Del Socorro, à qui j'avais promis que je viendrais. Il a fallu que je cours. Je ne suis pas quelqu'un qui court d'habitude pour rattraper ce train, mais je suis vraiment ravi d'être ici. Je m'étais dit que s'il y avait au moins un festival voilà, que je ne raterais pas, ce serait celui-ci. Donc je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, dans cette longue présentation, je n'en mérite pas autant, Thierry. L'histoire et l'Uchronie, en fait, je vais vous provoquer, hein, mais c'est quasiment la même chose, hein. C'est pareil. L'histoire, c'est juste une uchronie sans point de divergence. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que d'abord, l'histoire, et je le dis en tant qu'historien du droit, comme ça je peux aussi me faire rattraper par les historiens des lettres, il y a des castes comme ça dans l'université. Vous inquiétez pas, l'université finira par disparaître, ils vont se manger entre eux. L'histoire, c'est un discours. C'est un discours. C'est-à-dire qu'elle part de faits qui sont constatés, vérifiés. Donc là, la discussion sur les faits n'est pas en cause, hein. La chute de l'Empire romain d'Occident, la bataille d'Austerlitz, tout ce que vous voulez, les faits historiques, la naissance de Rome, la guerre du Péloponnèse, voilà, tous ces faits-là existent. Mais l'historien fait un discours sur les faits. Et un discours, c'est toujours subjectif. C'est une interprétation d'une réalité complexe, parce que la réalité humaine est toujours extrêmement complexe, et donc l'Uchronie, qui est un discours, est aussi une forme d'histoire, et l'histoire, qui est un discours, est aussi une forme d'Uchronie. Alors, je le dis de façon un peu provocatrice, mais c'est pour bien vous faire prendre conscience que l'histoire figée, elle n'existe pas, sauf dans les régimes totalitaires. Et encore, dans les régimes totalitaires, elle n'est pas figée, puisque, comme on le voit bien chez George Orwell, qui vient d'entrer à la Pléiade, comme vous le savez tous, l'histoire est réécrite en fonction des besoins du régime politique en place. Donc, déjà, il faut avoir conscience de ça. Il y a une différence entre dire c'est un fait historique, et ça on est d'accord, et dans l'Uchronie on joue avec les faits historiques, et plutôt de dire je distinguerai le fait historique de c'est une interprétation d'historien ou d'historienne. Et selon les historiens et les historiennes que vous suivez ou que vous lisez, vous ne lisez pas la même histoire. Par exemple, est-ce que la nation existe en tant que telle? Eh bien, il y a des historiens très anciens du 19e siècle, comme Ernest Lavisse, qui vous font le roman national français qui remonte à Clovis, etc., le baptême de Clovis, etc. Et puis, vous avez des historiennes très récentes, comme Anne-Marie Thiès, qui a fait un super bouquin il y a quelques années sur la création des identités nationales, qui vous démontre par A plus B, ou de A à Z, que la nation n'a jamais existé, qu'elle n'est qu'une construction idéologique au service d'un État qui veut qu'on le respecte parce qu'il est le défenseur d'une identité nationale qui en fait n'a jamais existé. Et ça remonte depuis l'Antiquité. Si vous prenez Hérodote, qui est le père de l'histoire en Grèce, Hérodote, lorsqu'il écrit l'histoire, il le fait en réalité pour encenser le modèle de la démocratie athénienne incarné par Périclès, dont il était le pote. Du coup, plus on s'éloigne de la Grèce, plus c'est n'importe quoi. C'est normal, puisque le bon modèle, c'est la Grèce. Et Thucydide, un autre historien grec, qui écrit La guerre du Péloponnèse, fait exactement pareil. Dans la guerre du Péloponnèse, il représente le point de vue, il présente le point de vue des Athéniens. Et donc, il écrit, comme l'a très bien dit Thierry, la guerre d'un certain point de vue. Et dans ce point de vue, lui, qui est un stratège, aristocrate athénien bien établi, veut montrer en fait que ben, malheureusement, Périclès est mort trop tôt, puisque Périclès meurt 2 ans après le début de la guerre du Péloponnèse, et donc que si Athènes perd la guerre du Péloponnèse, ben, c'est parce qu'elle n'a pas les gouvernants qu'elle mérite, tout simplement, et que ce n'est pas la faute du système démocratique ou des abus commerciaux, de l'opulence économique d'Athènes face à la stricte sévérité de Sparte. Voilà, c'est d'autres raisons. Et il donne son interprétation. Donc du coup, l'Uchronie a tout à voir avec l'histoire. Et en général, ceux qui écrivent des uchronies, qui sont des auteurs de science-fiction aujourd'hui, mais qui jadis étaient plutôt des historiens, comme l'a très bien dit Jérôme tout à l'heure, il y a eu ce recueil de textes uchroniques If It Had Happened Otherwise de John Collins Squire, c'est-à-dire si les choses s'étaient passées autrement, où beaucoup d'hommes politiques ou d'historiens se penchaient sur les alternatives historiques possibles, mais le faisaient avec ce regard, justement, ce discours d'historien. Donc, en définitive, si vous aimez l'histoire, vous aimez l'Uchronie. Et si vous aimez l'Uchronie, vous aimez forcément l'histoire ou le roman historique, le récit historique, on va dire, avec, voilà, avec cette prise de conscience que l'histoire elle-même est un récit. D'ailleurs, il y a un mot pour ça, qui est un peu technique, c'est l'historiographie. L'historiographie, c'est l'analyse des façons dont on écrit l'histoire au fil du temps. Et cette historiographie, c'est une science à part entière. Il y a des historiographes qui vont comparer. Alors, on peut tout comparer hein, dans l'histoire, mais chaque historienne, chaque historien a sa façon de présenter les choses. Et il y a pire que ça encore. Et après, j'arrête. Il y a pire que... C'est fini d'ailleurs, non ? Il y a pire que ça encore, c'est que non seulement l'histoire est un discours, mais elle a un discours toujours influencé par la réalité dans laquelle se trouve l'historien. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'écris une histoire sur le Moyen-Âge, ou si j'écris une histoire sur mai 68, je vais, malgré moi, écrire quelque chose qui exprime mes angoisses et mes espérances par rapport au monde réel dans lequel je suis. Il y a une très belle phrase d'un historien anglais qui s'appelle Arnold Toynbee, qui a écrit une magistrale histoire générale de l'humanité, Arnold Toynbee, un peu moins connu aujourd'hui. Hein. Il dit que l'historien est prisonnier de ses sources et il est prisonnier de son époque comme le potier est esclave de l'argile. C'est-à-dire que le potier, il peut être très talentueux, mais selon l'argile qu'il a entre les mains, il ne va pas faire les mêmes objets. Et donc aujourd'hui, l'engouement pour l'Uchronie qu'on voit, c'est aussi parce qu'on a besoin de se dire « Ah, si seulement les choses auraient pu... si seulement les choses avaient pu se passer autrement, où on en serait si d'autres décisions avaient été prises, où on en serait... » Alors il y a des Uchronies très... maintenant journalistiques, hein. Il y a des journalistes qui font de l'Uchronie à chaque article. « Ah, si Emmanuel Macron n'avait pas été élu... Ah, si, Olivier Véran, voilà, c'est de la politique fiction, mais c'est juste de l'Uchronie aussi. Et donc voilà, donc c'est très à la mode aussi parce qu'on a cette inquiétude aujourd'hui de se dire qui sommes-nous, quelle est notre histoire, quelle est notre identité, peut-être nationale ou pas nationale. Donc voilà le lien pour moi, c'est-à-dire que pour moi le lien il est très fort entre l'Uchronie et l'histoire.
On peut dire que l'Uchronie, c'est que l'histoire, c'est une Uchronie qui est arrivée.
Voilà, c'est ce que dit Jean-Jacques Régnier. Jean-Jacques Régnier, qui est un collègue qui a aussi travaillé sur l'Uchronie, qui est un auteur de science-fiction aussi, lui est très provocateur, il dit « L'histoire est une catégorie d'Uchronie qui est assez réalisée. » Bon, moi je préfère dire que l'histoire est une forme d'Uchronie sans point de divergence, mais c'est presque un peu la même chose.
Alors effectivement, dans un article, vous dites que l'histoire est une construction intellectuelle, une critique de leur causalité autant que de leurs conséquences. Enfin, au-delà des faits, les faits sont une critique. Enfin, au-delà des faits, certains... scientifiquement établi, l'histoire est une construction intellectuelle et une critique de leur causalité autant que de leurs conséquences, une forme raffinée de fiction. L'histoire est une forme raffinée de fiction. Et puis vous dites aussi, l'Uchronie et l'histoire sont en définitive comme les deux faces d'une seule et même pièce, tournoyant sans fin dans les terres, et sans doute l'Uchronie en constitue-t-elle la tranche scintillante. Voilà. Donc là, on est déjà dans la poésie de l'histoire. Alors, l'Uchronie et historien. Donc l'Uchronie, est-ce qu'elle est utilisée, est-ce qu'elle a été, je sais que du côté plutôt de anglo-saxon, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup moins en France, et alors pourquoi est-ce que l'Uchronie est utilisée comme un vrai outil scientifique pour le coup, pour essayer de comprendre l'histoire, pourquoi c'est arrivé comme ça et pas autrement?
Alors oui, ça dépend des périodes, ça dépend des pays. Nous en France, on est toujours un peu frileux avec la fiction, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, pendant longtemps, on m'a toujours dit « Ah, la science-fiction, ce n'est pas très fréquentable. » Quand j'ai commencé, je suis arrivé à la fac de droit et que j'écrivais déjà de la science-fiction, on me disait « Vous faites quoi comme vous écrivez ?»« Ah, vous écrivez, c'est bien, mais vous faites quoi de la science-fiction ?»« Ah, la science-fiction, ça va vous desservir. » Et puis bon, ça c'était il y a 20 ans. Les anglo-saxons, ce sont les meilleurs pour ça. Ils ont cette. Alors c'est une tournure d'esprit, hein, peut-être. Hein, ils ont d'autres défauts, hein, les anglo-saxons, plein. Hein. Mais ils ont cette tournure d'esprit du
La
et
guerre de Cent
si.
Ans n'est pas terminée. Hein.
Voilà. Du et si, de l'hypothèse, ils ont cette tournure d'esprit qui fait que l'utopie, l'uchronie, la science-fiction est très valorisée chez eux. Que ce soit les Anglo-Saxons, les premiers, les Britanniques, on va dire, ou les Américains. Donc il y a moins de lignes de rupture entre la fiction et la réflexion scientifique ou universitaire. En France, pendant très longtemps, la science-fiction, l'uchronie, etc., a eu une sorte de mur de verre, ou alors on dirait un plafond de verre, tiens, pour faire le rapport avec d'autres limites que notre société n'a pas encore complètement fini de faire tomber. Il faudrait que ça accélère un peu d'ailleurs. Il y a un plafond de verre qui fait qu'on n'avait pas le droit de faire des thèses sur la science-fiction pendant des années. Une thèse mémorable, c'est celle de Laurent Genefort. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur de science-fiction français, très prolifique, qui a fait une thèse sur les livres univers et sur Dune. Une thèse en littérature, c'était dans les années 80, c'est le contre-exemple. Dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de thèses en littérature ou en histoire sur la science-fiction ou sur l'Uchronie. Aujourd'hui, par contre, ça y est, on est dans une phase où les choses se sont ouvertes. Et il y a des travaux très sérieux, des journées interdisciplinaires qui s'organisent sur l'Uchronie, sur le rapport entre l'histoire et l'Uchronie. Il y a des historiens qui écrivent sur l'Uchronie. Notamment Fabrice d'Almeida qui avait fait un ouvrage sur. Alors, comment s'appelle son.
Et si on refaisait
Voilà, et
l'histoire
si on refaisait.
avec le regretté Anthony Rowley?
Voilà, Anthony Rollet, voilà, c'est ça. Et le titre, c'était Et si on refaisait, si on refaisait l'histoire. Il y a beaucoup de choses, de colloques universitaires aujourd'hui qui font appel à l'Uchronie. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, hein, c'est. Tout à l'heure, on parlait de la littérature jeunesse. Quelqu'un parlait de demander de la littérature jeunesse. L'Uchronie est même utilisée maintenant à l'école. Il y a dans l'enseignement, alors plutôt dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement primaire, mais il y a des cas dans lesquels on va utiliser l'Uchronie pour faire comprendre la nature de l'histoire, avec toute une pédagogie très claire, où on parle d'abord des faits historiques, et ensuite on utilise l'Uchronie pour essayer de faire comprendre aux enfants comment se déclenche finalement la causalité des événements historiques. Et puis l'Uchronie est un jeu, il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est un jeu imaginaire, c'est une fiction, on est là aussi pour se divertir. Donc il ne faut pas que l'Uchronie soit prisonnière d'une espèce de dimension strictement universitaire, intellectuelle. C'est aussi un jeu et on peut donc jouer aussi d'une certaine façon, un jeu pédagogique, un jeu sérieux, on pourrait dire. Et donc ça revient tout à fait maintenant, c'est devenu quelque chose qui se pratique très bien dans la littérature jeunesse, en pédagogie et donc à l'université.
Pour ce qui est du côté de l'histoire, c'est quand même assez surprenant, effectivement, que les historiens, en tout cas en France, n'aient pas enfourché cet outil, puisque il y a, parmi plein de citations, hein, celle de Raymond Aron en 1938 dans Introduction à la philosophie de l'histoire, qui dit « Tout historien, pour expliquer ce qui a été, se demande ce qui aurait pu être ». Donc on est complètement dans le sujet. Ou plus récemment, Antoine Prou, qui est aussi un historien majeur de l'histoire contemporaine, dans son livre 12 leçons sur l'histoire, 1996, toute histoire est contrefactuelle. C'est aussi comme ça qu'on appelle en histoire l'Uchronie, c'est l'histoire contrefactuelle, donc les faits enfin, les contrefaits de ce qui aurait pu arriver. Donc toute histoire est contrefactuelle. Il n'y a pas d'autre moyen pour identifier des causalités que de se transporter en imagination dans le passé, de se demander si, par hypothèse, le déroulement des événements aurait été le même au cas où tel facteur considéré isolément aurait été différent. Donc là, on est vraiment dans l'Uchronie plein pot.
Alors oui, mais il y a une raison, alors il y a une petite raison historique aussi qui fait que l'Uchronie avait mauvaise presse, c'est que parfois ceux qui ont fait de l'Uchronie l'ont fait pour des raisons idéologiques. Hein, on va parler de révisionnisme, hein. C'est-à-dire que certains ont nié les faits historiques et ont utilisé, ont cru, ou en tout cas ont voulu utiliser l'Uchronie pour utiliser une Uchronie dans un sens très idéologique. Et c'est vrai que certaines Uchronies françaises ont été très idéologiques. Alors, l'idéologie, c'est pas forcément un gros mot, hein, mais quand on fait quelque chose d'idéologique, vous le savez, c'est parce qu'on veut obtenir un résultat politique. Hein, tout est idéologique, hein, En Marche est autant idéologique que Mélenchon, que ce que vous voulez, hein. On veut obtenir un résultat, on veut obtenir un résultat politique. Renouvier, Charles Renouvier, qui est donc le français qui utilise le mot Uchronie pour la première fois, et qui a été cité tout à l'heure par, par Jérôme, avec toi, avec vous,
ouais, voilà, ouais, on peut
avec
tutoyer.
Toi. Bon, avec toi. Il écrit l'Uchronie pour des raisons idéologiques. Charles Renouvier, c'est un philosophe républicain, un 48art. Alors 48art pour le 18e, pour le 19e siècle, c'est ceux qui ont fait la révolution de 1848 et qui ont été très désappointés lorsqu'en fait cette révolution a donné le Second Empire avec Louis-Napoléon III. Et donc lorsqu'il écrit l'Uchronie, Renouvier, on est en 1857, il va la publier un peu plus tard en 1876, et lorsqu'il écrit l'Uchronie, il est nostalgique de l'idéal égalitaire républicain de 1848. Et pour ne pas parler de cet idéal républicain égalitaire de 1848, il utilise l'Uchronie pour décrire un monde alternatif dans lequel l'Empire romain redevient une république. Et si on lit attentivement l'Uchronie de Renouvier, on s'aperçoit que c'est en fait même une anachronie, parce qu'en fait, en réalité, ce qu'il décrit, c'est le triomphe des idées républicaines, non pas romaines, mais le triomphe des idées républicaines des idées républicaines de la Deuxième République, de la Seconde République, c'est-à-dire des idées françaises. Et comme il a écrit aussi un manuel du citoyen républicain, bah, il suffit de regarder son manuel en regard de son Uchronie, c'est quasiment un copier-coller. Donc le but de l'Uchronie, pour Renouvier, c'était pas d'amuser le lecteur. Le but de l'Uchronie pour Renouvier, c'était d'édifier le lecteur, de faire une sorte de persuasion politique en disant que, inévitablement, après l'Empire, la République revient. Et donc le message, il est clair, hein, c'est ben, on a le Second Empire, on doit se taper Louis-Napoléon III, mais vous inquiétez pas, on garde en tête l'idéal républicain, c'est un combat, et on va inévitablement, tôt ou tard, on aura les moyens intellectuels, techniques, institutionnels de rétablir la République. Et donc, c'est pour ça que l'Uchronie est un peu, en France, a une réputation un peu sulfureuse, parce que bien souvent, dans l'histoire, elle a eu une dimension très idéologique. Alors, attention, hein, je ne dis pas que tous ceux qui écrivent sur Hitler, parce que tout à l'heure, Jérôme, il a dit qu'il adorait Hitler, je lui laisse la responsabilité de ses propos. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous mis déjà sur Twitter, parce que maintenant, c'est la guerre. Dès que quelqu'un dit une bêtise, pouf, bon, ce n'était pas une bêtise, c'était du second degré, bien sûr, et même du 14e degré, tout à fait, ouais. Peut-être 14,5. Tous ceux qui écrivent des uchronies sur la Seconde Guerre mondiale ne sont pas, évidemment, des pro-nazis primaires, comme vous pourriez, vous ne pourriez pas l'imaginer, bien entendu. C'est justement une idée de se réapproprier cette partie de l'histoire et d'en faire la pédagogie. Parce qu'en lisant une uchronie sur le nazisme, en lisant une uchronie sur la Seconde Guerre mondiale, inévitablement, vous êtes ramené à vos connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et vous êtes obligé, d'une certaine façon, de les rafraîchir, de les revivifier, et donc ça a une dimension pédagogique. Donc la dimension idéologique de l'Uchronie, c'est ce qui a marqué surtout le 19e siècle. Aujourd'hui, on est plutôt dans des Uchronies ludiques, qui sont faites par des auteurs de science-fiction la plupart du temps, mais qui ont aussi une ambition, justement, je reviens hein, sur cette ambition pédagogique, un peu de réapprendre aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, les éléments historiques. Et alors, on a besoin d'Uchroniens plus que jamais, parce qu'en plus, on est en train de réécrire l'histoire. Bon, on en reparlera, mais on est en train de faire des choix dans l'histoire. On fait des coupes. Hein. On va déboulonner Colbert, hein, cet affreux esclavagiste. Hein. Bon, il a été homme d'État, mais il faut s'en débarrasser. Alors, on réécrit des choses. Et du coup, l'Uchronie, ce jeu-là, justement, il nous permet d'avoir du recul, comme la science-fiction, par rapport aux événements que nous traversons et au regard que nous avons sur l'histoire.
Alors justement, dans les différentes thématiques qu'on peut tirer de ces uchronies, notamment celles qui utilisent l'histoire, en dehors de celles qui sont ludiques, dont on parlera aussi, hein, mais est-ce que l'idée, c'est de questionner d'une façon générale nos représentations ? Est-ce que la majorité des uchronies historiques qui partent de faits réels pour imaginer une autre société, est-ce que l'idée, c'est ça ? C'est de mettre en miroir nos représentations, nos idéologies, nos idées, nos modes de vie, et de permettre de réfléchir, en fait.
C'est absolument ça. J'ai presque rien à ajouter. Hein. Okay. C'est... Non, mais il est parfait. Thierry, c'est ça, c'est un jeu sur nos représentations. Et le mérite de l'Uchronie, tout en vous amusant, parce qu'il faut qu'elle vous amuse, ne relisez pas Renouvier, c'est atrocement ennuyeux. Hein. C'est d'un grand ennui, c'est très long en plus. Moi, je l'ai lu pour des articles et tout, donc c'est long et ennuyeux. Après, c'est intelligent, hein, mais c'est long et ennuyeux. Mais c'est de jouer sur nos représentations, et le mérite en fait de l'Uchronie, c'est juste, tout en vous amusant, hein, parce que la mission de l'auteur, la mission première de l'auteur, c'est de vous amuser, de vous faire partir, de vous faire voyager dans des mondes alternatifs, dans des mondes chatoyants, comme dans Civilisation de Laurent Binet, comme dans les romans de Robert Silverberg, ou de Jean-Laurent Del Socorro, ou d'autres auteurs français, qui ont été cités tout à l'heure très bien par Jérôme. Mais tout en vous amusant, de vous faire prendre conscience que ce que vous croyez être l'histoire objective, absolue, parfaite, c'est une représentation. Et que ces représentations, bah, il en va des représentations comme des êtres humains, elles vieillissent. Et à un moment donné, elles perdent de leur pertinence et il faut pouvoir changer de représentation. Et ça dépend aussi de l'évolution de la société. Et l'Uchronie nous aide à faciliter ce changement, finalement, je dirais, de représentation. On a eu énormément d'Uchronies sur Napoléon, on a eu énormément d'Uchronies sur Hitler, mais aujourd'hui, on a des Uchronies beaucoup plus fines, beaucoup plus ciblées sur des thématiques différentes, sur des cultures différentes. Il faut arrêter de voir toujours l'Uchronie sur la culture européenne. Il peut y avoir des Uchronies sur la culture africaine, la culture indienne, la culture arabe, il y en a plein. D'Uchronies qui sont susceptibles de s'emparer de champs culturels qui sont aujourd'hui bien plus présents dans notre société qu'ils ne l'étaient avant, et elles nous aident à nous en emparer, à nous familiariser avec eux.
Alors, la question qui peut se poser, c'est quand on n'a pas les codes, enfin, quand on n'a pas les connaissances historiques d'une période, bon, la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, on a tous plus ou moins un bagage sur le sujet, Napoléon peut-être un peu moins, mais quand même. Et quand on rentre dans des périodes plus pointues, comment est-ce qu'on est à même d'apprécier une uchronie? Est-ce que là, pour le coup, ce n'est pas le roman qui va prendre le pas? Par exemple, Tancrède, je ne sais pas qui est spécialiste ici de la première croisade, on peut avoir quelques notions, mais c'est déjà très lointain. Donc, effectivement, ça nous oblige, si on veut en profiter pleinement de cette lecture, à aller rechercher des choses, ce qui est très bien aussi. C'est peut-être un des objectifs, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, des uchronies. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas le risque de perdre de la réflexion, etc., quand on ne connaît pas la période?
Alors, en fait, si l'auteur a bien réfléchi, non. C'est-à-dire que c'est à l'auteur de réfléchir, c'est pas tellement au lecteur dans un premier temps. Moi, j'aime pas les bouquins qui obligent le lecteur à souffrir pour entrer dedans. Ça m'énerve. Moi, je pense qu'un livre, ça doit être un divertissement. On doit être emmené par le livre. Et donc, l'auteur doit d'abord avoir comme priorité absolue de vous amener dans son univers imaginaire, de vous faire partir. Alors, Stephen King, hein, grand auteur américain, dit que toute histoire repose sur trois éléments: la situation, les personnages et l'intrigue. Et que le plus important des trois éléments, c'est la situation de départ. Hein, c'est-à-dire une situation dramatique, une situation de crise, on est en état de guerre, en état de crise, en état de pandémie. Et il faut faire quelque chose, et là, tout de suite, vous êtes dans l'histoire, et tout de suite après la situation, c'est le personnage qui va prendre le relais, qui va créer un lien avec vous à travers l'espace et le temps. King, il dit, c'est de la télépathie. Et c'est ce personnage-là que vous allez, qui va s'emparer de vous, et là, vous partez avec le personnage, et l'intrigue, tout le monde s'en fout. La preuve, regardez les séries télé aujourd'hui. Interminable, Doctor Who qui est absolument génial, il y a des intrigues absolument abracadabrantesques, mais Doctor Who, c'est Doctor Who. Donc vous voulez suivre Doctor Who dans toutes ses aventures. Et je vous promets, faites le test. Vous verrez que la plupart du temps, quand vous vous rappelez d'un bon bouquin, c'est d'abord le personnage et la situation de départ. Et l'intrigue vient après. Et donc l'auteur d'Uchronie, s'il ne le pense pas comme un auteur tout court, ben, il se plante. Et s'il ne s'adresse évidemment qu'à une toute petite partie de ses lecteurs passionnés d'histoire, voire de la période historique qu'il a choisi de traiter, bah, il se coupe de la plupart de son lectorat. Il ne faut pas s'étonner qu'il vende 80 bouquins. Je reprends le chiffre de tout à l'heure. Et donc, il faut savoir doser. Et je pense que toutes les uchronies, comme ça, il y a une palette d'uchronies. On peut avoir des uchronies très simples et inoubliables, et des uchronies très complexes et oubliables plus facilement. Et il faut doser, moi, pour plaider coupable, dans Tancrède. Mais bon, dans Tancrède, c'est un cas particulier, parce que c'est aussi un hommage à mon grand-père. Et donc, j'avais énormément fait de recherches, etc. Donc, du coup, j'ai fait une uchronie qui est peut-être un peu... effectivement un peu exigeante. En tout cas, si vous voulez vraiment voir la part de la réalité et la part de l'imaginaire, il faut vraiment aller vérifier. Mais le maître du haut château de Philippe Kadic, enfin voilà, c'est une uchronie qui ne suppose aucune connaissance particulière, si ce n'est celle de la culture générale sur la Seconde Guerre mondiale.
Ce qu'il ne faut pas oublier, ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les uchronies sont aussi des romans, voire avant tout des romans, et donc portés par des personnages, des situations, et que sans doute la plupart de ces uchronies, si elles sont bien écrites, comme le disait aussi Jérôme tout à l'heure, on peut les lire ou comme des romans, et Tancrède c'est aussi un roman de chevalerie, un roman d'aventure, etc. Et si on a une deuxième lecture qu'on peut affiner, on profite un peu plus de cette lecture, mais en fait on peut le lire au premier degré comme ce roman de chevalerie qu'il est.
Et puis, bien sûr, et puis pour reprendre une question d'une dame qui peut-être est encore là sur l'utopie, je ne sais pas où, voilà, cette dame-là, je fourmillais là-bas au fond de la salle en disant, mais je veux répondre. Mais l'utopie aussi, c'est un divertissement. Parce que nous, on a intellectualisé Thomas More. Bon, Thomas More, c'est un juriste, c'est le meilleur de tous les utopistes, on est d'accord. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Thomas More. Mais il y a une forme de divertissement qui est délibérée chez Thomas More. Il est avocat, il est juge, il est catholique fervent, etc. Et il écrit l'utopie aussi pour une forme de divertissement, pour critiquer, c'est vrai. On a dit, et c'est juste, il écrit l'utopie pour critiquer le gouvernement d'Henri VIII, etc. Mais c'est aussi un divertissement. Et si on lit toutes les utopies dans l'histoire, il y a toujours cette dimension de, surtout chez les anglo-saxons, une dimension de divertissement. Je prends par exemple un auteur qui est très peu connu ici, qui s'appelle Samuel Butler. Je ne sais pas si vous avez un auteur du 19e siècle qui a écrit une utopie qui s'appelle Erwan. Erwan, c'est l'anagramme de Nowhere. Erwan, hein, c'est l'anagramme simplement de Nowhere. C'est une utopie du 19e siècle, un peu libertaire sur plein de choses, l'éducation, etc. Il raconte sa propre histoire d'un fils de bonne famille qui ne veut pas faire des études de droit et qui décide de partir en Nouvelle-Zélande élever des moutons. Et donc au début, ça commence comme ça. Il est en Nouvelle-Zélande, il élève des moutons. Et puis un jour, il perd un mouton et il se demande où il est passé. Il part à la recherche de son mouton. Il trouve un passage dans la roche quelque part. C'est presque le Seigneur des Anneaux. Hein. Il trouve le passage dans la roche et poum, il tombe sur une cité où tout est inversé, où les criminels sont protégés et soignés, où les malades sont condamnés à mort parce qu'ils sont malades, parce qu'on n'a pas le droit d'être malade, heureusement qu'on n'y est pas, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'être malade. Il inverse tout, il s'amuse terriblement, et c'est aussi du divertissement. Hein, donc il ne faut pas oublier, et pour vous répondre, il y a un lien très fort pour moi entre l'utopie et l'uchronie. C'est la même ambiguïté initiale, on ne doit pas l'oublier, on s'amuse tout en faisant réfléchir le lecteur. On s'amuse tout en faisant un peu la satire du monde réel, la satire de nos certitudes. Simplement, bah, l'utopie, elle va chercher l'ailleurs dans l'espace. L'uchronie, elle va chercher l'ailleurs dans le temps. Et l'utopie est autant liée à l'espace que l'uchronie est liée au temps, puisque vous disiez qu'il y a un fait historique au départ de l'uchronie. Mais si vous regardez bien dans l'utopie, il y a toujours un espace réel comme point de départ. Elle est quelque part sur Terre, cachée... les cités d'or, tout ce que vous voulez, elle est cachée quelque part et il faut la trouver.
Alors, dans ces uchronies historiques, pour revenir sur l'utilisation de l'histoire, sur la réflexion que ces uchronies portent, est-ce que, ça c'est quelque chose, j'ai lu plusieurs fois aussi dans divers documents ou interviews, est-ce qu'il y a un côté cathartique, à savoir, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, permettre une distanciation par rapport à ce qui s'est passé, voir que ça aurait même pu être peut-être pire encore, je ne sais pas. Il y a des utopies, des uchronies qui imaginent que Hitler est supprimé, mais finalement, il y a quelqu'un d'encore pire qui arrive derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté cathartique qui est peut-être un peu, consubstantiel aussi de l'uchronie ou...
Alors, oui, je ne sais pas, cathartique, enfin, la catharsis, enfin, je ne suis pas spécialiste du coup de la catharsis, mais c'est quand on veut essayer de faire oublier ou d'oublier une douleur qu'on a vécue. Moi, je ne pense pas que l'Uchronie soit toujours le lien avec une douleur. Ou alors, ce que tu définis, c'est la fiction en général. C'est-à-dire qu'on ouvre un roman, c'est aussi un peu pour oublier tous les problèmes qu'on a, les masques qu'on doit mettre, le gel qu'on doit passer. Donc on va lire Civilisation de Laurent Binet, ou on va lire un roman d'actu SF, ou on va lire, voilà, et on va partir. Donc c'est pas tellement cathartique, c'est plus un peu l'idée de, voilà. Après, il y a un côté identitaire, culturel, de l'Uchronie, c'est-à-dire que il y a aussi dans l'Uchronie la valorisation, la mise en avant d'une culture qu'on veut défendre parce qu'elle n'est pas suffisamment visible dans notre société. Il faudrait quand même qu'on commence à comprendre qu'on est dans une société pluraliste aujourd'hui et qu'on arrête d'avoir toujours les mêmes références. Tout à l'heure, je parlais de Colbert, mais qu'on arrête toujours d'avoir les mêmes références. Donc, on a besoin d'Uchronies qui mettent en scène et qui mettent en. Alors, ce n'est pas de la catharsis, c'est plutôt l'inverse. Je ne sais pas ce que serait l'inverse de la catharsis, mais c'est de la mise en lumière de choses qui font partie de nous et que bien souvent, la culture officielle a un peu occultées. C'est pour ça d'ailleurs que l'Uchronie a trouvé sa niche idéale dans la science-fiction. C'est pas un hasard du tout. Parce que la science-fiction, pendant très longtemps, ça a été un peu la contre-culture. C'est-à-dire là où on pouvait dire des choses subversives sur la nature de la République, la nature du régime politique, la nature de la société, les inégalités. Francis Berthelot, par exemple, ou Catherine Dufour, pour citer deux auteurs qui ont mis en avant ces inégalités. Eh bien, dans les Uchronies, tout comme dans les dystopies, hein, La Servante écarlate de Margaret Atwood, par exemple, hein, on trouve de quoi dire. Regardez comme il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, regardez comme il y a des inégalités entre les blancs et les noirs, regardez comme il y a des inégalités entre les riches et les pauvres. Donc ça, oui, c'est cathartique et c'est une fonction de la fiction, mais je pense pas que ce soit spécifique à l'Uchronie, je pense pas.
Alors, en histoire, pour résumer à très grands traits, à coup de serpe même, on considère qu'il y a souvent deux mouvements, deux écoles, on va dire. Un qui dit que ce sont les hommes qui font l'histoire, et l'Uchronie, du coup, s'empare de ça en disant, bah, par exemple, si on supprime Hitler, plus de Seconde Guerre mondiale, etc. Ou le deuxième mouvement qui dit c'est plutôt l'histoire. Avec des grandes tendances, des grands mouvements à long terme, qui fait les hommes, même si c'est les hommes qui incarnent ces grands mouvements. Et là, on est plutôt du côté de Marx, de Braudel. Et l'idée, c'est de dire, bah, si on supprime Hitler, peut-être de toute façon, il y aura quelque chose qui va quand même advenir. Donc ça, on va dire que ces deux grands mouvements qui discutent ou qui peut-être même s'affrontent en histoire. Est-ce que l'Uchronie, elle participe aussi de ce débat? Est-ce qu'on arrive à dégager une tendance plutôt pour ou contre, ou est-ce que effectivement c'est bah, mélangé parce que la vérité est peut-être au milieu, tout simplement?
Oui, alors ça c'est une sacrée question parce que les historiens ne savent pas, puis on ne saura jamais, heureusement, parce que si on avait une histoire complètement déterministe, bah, du coup, à quoi bon se battre, hein, qu'à attendre que les choses se passent? Donc allons tranquillement vers le fascisme inexorable qui nous attend, hein, vers l'hygiénisme fascisant, etc. Pourquoi pas? Ou alors on se bat parce qu'il y a des personnalités, et dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui va se lever, quelqu'un ou quelqu'une. Hein, qui va se lever pour enfin mettre fin en héros ou en héroïne à cette espèce de dérive que nous vivons, etc. Les historiens n'ont pas la réponse, donc les auteurs d'Uchronie, qui la plupart du temps ne sont pas des historiens, n'ont pas la réponse non plus. Donc l'Uchronie, elle joue avec ça. Alors on pourrait dire qu'il y a deux formes d'Uchronie. Il y a les Uchronies, on pourrait dire, alors allez, pour simplifier, divergentes et convergentes. Bon. Divergente, c'est celle qui vraiment s'éloigne et qui montre un monde complètement à l'équerre d'une autre, et qui vont donc jouer sur le fait que la situation aurait pu véritablement être complètement différente. Et donc elles sont plutôt, je dirais, optimistes, parce qu'on peut changer l'histoire. On peut changer l'histoire. Et donc ça nous dit aussi, bah, vous pouvez toujours changer l'histoire, donc battez-vous. Et puis les uchronies plutôt, je dirais, convergentes, mais bon, pour schématiser, à mort, pareil, qui disent au fond, bah, quoi qu'il se passe à la fin, la courbe retombera toujours au même endroit, à peu près. C'est par exemple Philippe K. Dick, dans Le Maître du Haut Château, il est assez pessimiste parce que finalement, il nous montre un monde où les nazis ont gagné la guerre, où les forces de l'Axe ont gagné la guerre, où l'Afrique est transformée en champ d'expérimentation génétique, où les inégalités sociales et la ségrégation sont légalisées et sont la base de la société. Et pourtant, dans ce monde-là, ben, la plupart des gens acceptent ce monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent « Ah mais quel, comment ?»« Mais pourquoi je vis dans ce monde aussi affreux ?» etc. Alors, il y a la série, hein, mais la série s'éloigne beaucoup, il a dit, Jérôme. Hein. La série, à partir de la saison 2 ou 3, je ne sais plus, j'ai vu que la première saison, s'éloigne beaucoup du bouquin. C'est assez pessimiste, ça veut dire quand on a le nez sur nos conneries, sur nos inégalités, sur nos lâchetés, juridicisées et validées par le droit, parce qu'en tant que juriste, le rôle du droit, malheureusement, il est fondamental dans une société. Hein. Il organise la société, donc il est nazi dans une société nazie, il est libertaire dans une société libertaire, il s'adapte le droit en fonction des valeurs de la société, eh bien, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Moi, par exemple, en tant que juriste, j'ai été longtemps un peu aveugle sur les inégalités hommes-femmes. Quand on m'en parlait, je disais toujours bah oui, mais non, mais il y a égalité devant le droit. Pourquoi les femmes et les hommes sont égaux en droit ? Donc je vois pas où est le problème. Et puis petit à petit, en étant sensibilisé dans mon parcours d'universitaire aux questions des violences faites aux femmes, j'ai commencé à comprendre que le droit, c'est juste le point de départ et qu'il ne suffit pas de dire « il y a des droits » pour voir des droits respectés. Donc il y a tout un tissu social derrière qui doit se mettre en place. Et du coup, ben voilà, parfois on a le nez devant, on ne le voit pas. Tout comme les inégalités professionnelles, etc. Enfin, tout ce qu'on peut trouver. Donc, l'Uchronie convergente est plutôt pessimiste, parce qu'elle nous dit bah, finalement, même un monde horrible, où un monde va finir par retomber un peu sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire les rapports entre les citoyens et l'État, les inégalités entre les classes sociales, etc. Mais y a pas, c'est pas tranché, je pense. Il n'y a pas d'Uchronie purement marxiste, à part le marxisme lui-même, qui d'ailleurs n'est pas la pensée de Marx. Hein. Si vous voulez connaître la pensée de Marx, il faut lire Marx, pas les auteurs marxistes. C'est la différence entre la pensée politique et l'idéologie. Hein. Je dis ça au passage. Et pour la liberté des hommes qui changent l'histoire, les grands hommes qui changent l'histoire, c'est plutôt Thomas Carlyle hein, qui a créé ce culte du héros dans les années 30 et qui a développé cette idée-là.
Alors, tout à l'heure, on a dit que l'Uchronie a été pas mal en vogue à la fin du 19e, début 20e, et puis après, ça a disparu. Enfin, en tout cas, ça s'est atténué. Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que c'est lié justement aux événements historiques ?
Ah oui, clairement, hein, c'est lié aux deux guerres mondiales. Et clairement, il y a eu en France, alors ça, pour connaître un peu maintenant l'histoire de la science-fiction française, mais le grand spécialiste qui est à la Sorbonne, c'est Simon Bréant, qui est un professeur de la Sorbonne qui a écrit une histoire, qui a fait une thèse et qui a écrit une histoire de la science-fiction française. Il y a eu un choc identitaire profond à cause des deux guerres mondiales, surtout la première en fait. Et à partir des années de l'entre-deux-guerres surtout et des années, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la science-fiction et donc le jeu sur l'histoire aussi qui s'était rapproché de la science-fiction a été mis à l'écart parce que la science a été condamnée, surtout en France, pour avoir permis les horreurs des deux guerres mondiales. Les gaz, les chars, les obus, la machine, la mécanisation du conflit. Et puis, bien sûr, l'élimination systématique et rationalisée des individus dans la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Et du coup, il y a eu une sorte de rejet par la culture officielle, la soi-disant culture intellectuelle républicaine, on va dire, de la science-fiction, qui était une mauvaise littérature parce qu'elle se basait sur la science. Et du coup, en voulant créer une histoire de plus en plus scientifique, on a aussi mis de côté l'Uchronie parce que l'Uchronie n'était pas scientifique. Et donc, il y a eu aussi cet effet, clairement, qui n'a pas eu lieu en Angleterre. Parce que les anglo-saxons ont toujours, ce que je disais tout à l'heure, ils ont toujours plus pratiqué le jeu de la fiction comme outil pour penser la société. Alors que nous, moi j'ai grandi, moi j'ai 48 ans hein, cette année, Pendant toutes mes études secondaires et universitaires, je disais pas que je faisais de la science-fiction, que j'en lisais, que j'en écrivais, c'était mal vu. Quand je suis arrivé à la fac de droit, encore une fois, on m'a dit, voilà, il y a encore 20 ans, 30 ans. Maintenant, ça a bien changé depuis.
Et tant mieux. Alors, avance trop vite. J'ai quand même encore une ou deux questions avant de vous poser, avant de vous passer le micro, enfin la parole en tout cas. Est-ce que aujourd'hui, justement, donc les historiens ont une meilleure perception de l'Uchronie? Est-ce qu'ils lisent des romans uchroniques en se disant ça peut nous aider à réfléchir? Et est-ce qu'il y a une sorte de retour positif vers l'Uchronie?
Oui, alors oui, il y a un retour positif. Aujourd'hui, le rapprochement entre le monde universitaire, enfin le monde de la recherche et le monde des auteurs est fait. D'ailleurs, il ne l'a pas dit tout à l'heure, Jérôme, mais ActuSF publie des actes de colloque. Alors pas forcément sur l'Uchronie, mais en tout cas, il publie des actes de colloque. Les universitaires sont invités dans les festivals de science-fiction. Aux Utopiales, il y a des tas d'universitaires de tous bords. Et qui dialogue avec des auteurs de science-fiction, d'uchronie, de fantasy, de dystopie, etc. Et inversement, de plus en plus, moi je note avec une grande joie que les organisateurs, les organisatrices de colloques, d'événements scientifiques dans le monde universitaire ou des grandes écoles, hein, invitent de plus en plus fréquemment des auteurs pour avoir justement ce regard de la fiction. Pour sortir un peu des clivages habituels qu'ils ont entre eux. Et donc, une nouvelle fois, le monde intellectuel et le monde de l'imaginaire se sont rapprochés. Et moi, ça me réjouit énormément, avec un petit bémol. Un tout petit bémol, c'est que c'est une mode. C'est un peu la mode aussi. Et j'ai peur que, comme toutes les modes, elles finissent par passer. Moi, par exemple, je note que dans le monde du droit, qui est quand même l'un des plus conservateurs qui soit, je parle pas politiquement, je parle attaché à ses habitudes, hein, parce que les juristes, pour les bouger, il faut, voilà. Mais aujourd'hui, ça y est, le droit s'est ouvert aux algorithmes, à l'intelligence artificielle et à l'Uchronie. Et les dernières interventions en colloque que j'ai pu faire, c'était génial, le rêve d'enfance qui se réalise. Je suis intervenu dans un colloque sur les lois d'Asimov. Tu crois? Un colloque de droit, hein, des juristes sur les lois d'Isaac Asimov, les lois de la robotique. Donc c'est super, on a enfin une légitimité, on peut dialoguer avec les chercheurs. Mais attention à ce que ça ne soit pas un effet de mode et qu'on ne retombe pas dans le travers français habituel, c'est-à-dire celui de faire des clivages très marqués entre des catégories, l'enseignement, l'imaginaire, qui longtemps ont été aussi un peu séparés.
Alors, c'est dommage parce que tu n'as pas lu le livre et moi non plus, mais je suis tombé très très tardivement sur un ouvrage dirigé par quelqu'un qui s'appelle Xavier Delacroix, qui est entre autres, enfin, qui est devenu lobbyiste, je crois d'ailleurs, et qui a réuni des historiens et des écrivains sur un livre qui doit s'appeler Et si, je sais plus, et si, autour de la Première Guerre mondiale, voilà, et si, oui, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle ce livre, malheureusement, voilà, sur l'idée que,
Utilisez vos téléphones portables.
voilà, Google est notre ami, qui prend principe que les Allemands auraient pu gagner la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et donc on aurait eu évidemment un XXe siècle tout à fait différent. Et il a réuni des historiens pour discuter autour de ça. Alors c'est assez, si vous voyez des interviews, c'est assez amusant parce que il dit j'ai donc des historiens comme Pascal Aury qui est venu d'ailleurs au Festival du Premier Roman il y a 2 ans, Stéphane Audouin-Rouzeau qui est le grand spécialiste de la Première Guerre mondiale. Donc tout un panel, ils étaient 6 ou 7, et il raconte que l'idée, c'était justement de faire de l'uchronie historique et après d'en tirer des scénarios pour demander à des écrivains d'écrire des nouvelles, en quelque sorte, d'après ça. Et il dit qu'il réunit les historiens chez lui, pardon, et qu'ils se sont mais étripés comme des gamins, pour pas dire comme des voyous, et que même certains ont claqué la porte en disant c'est pas possible, je ne peux pas imaginer que ça puisse avoir lieu. Et donc c'est un bouquin intéressant parce que justement, donc, par exemple, Pascal Aury a écrit un scénario qui a été écrit par Pierre Lemaître, Cécile Adjali avec, je crois que c'est Christian Ingrao. Voilà, donc on a des choses qui sont un matériau qui est assez sérieux. J'ai trouvé que justement ce retour des choses, puisque en fait c'est ça, c'est les historiens qui se servent de la littérature pour faire passer des idées. Je trouvais que c'était intéressant.
Oui, mais parce qu'en fait, la plupart d'entre eux ont encore peur de faire de passer pour des révisionnistes ou ils sont inquiets de l'image qu'ils renvoient, et ça, je peux comprendre. Tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de le dire, mais il y a une façon très simple de mettre de côté l'accusation de révisionnisme de l'Uchronie. Hein, c'est très très simple. C'est très simple, c'est juste que l'Uchronie part du. Alors, l'Uchronie littéraire, hein, la classique, part du principe qu'elle est une divergence. Donc, elle ne peut pas exister sans d'abord avoir admis que le fait sur lequel elle va jouer existe. Donc, c'est le contraire du révisionnisme. Je ne peux pas écrire d'Uchronie si je suis révisionniste, parce que je vais jouer sur l'existence du fait. Alors que la base de l'Uchronie, c'est dire, il y a eu tel événement, tel jour, tel attentat, l'attentat du petit Clamart, par exemple, auquel fait référence Roland C. Wagner dans Rêve de gloire. Cet événement a eu lieu, moi, auteur, je vais imaginer qu'est-ce qui se serait passé. Si l'événement soit n'avait pas eu lieu, soit avait eu lieu plus tard ou plus tôt, soit avait eu une issue différente. Donc le cheminement de l'imagination qui crée l'Uchronie est à l'antithèse du révisionnisme. Donc voilà, il faut se débarrasser complètement de cette angoisse. Mais pour les historiens, comme pour beaucoup, hein, c'est normal, il y a toujours encore une petite résistance à l'Uchronie.
Alors, j'arrive pas, j'ai pas assez de réseau pour avoir le titre du livre, mais voilà.
Et
Et
si
si
les
les
Allemands
Allemands avaient
avaient
gagné,
gagné la bataille de la Marne?
pour terminer de mon côté une dernière question. Là, on a parlé beaucoup des rapports entre l'histoire et l'Uchronie, mais est-ce qu'il y a aussi des Uchronies qui ne se basent pas forcément sur l'histoire, des Uchronies, puisque vous avez parlé beaucoup du côté quand même ludique et romanesque, évidemment, de ces romans, enfin de ces livres. Est-ce qu'il y a des Uchronies farfelues et des Uchronies où on se marre?
Oui, alors il y a des uchronies farfelues où on se marre, il y a beaucoup de choses où on se marre, où il y a de l'uchronie aussi. Par exemple, Kaamelott, c'est une uchronie géniale de Alexandre Astier, en permanence, c'est un festival, qui en même temps très référencé, hein, très très référencé. Hein. Attention, un grand, grand hommage au travail d'Alexandre Astier, mais il y a beaucoup de choses. Alors il y a par exemple Les Croisées du Cosmos de Poul Anderson, hein, où vous avez des chevaliers teutoniques qui rencontrent les extraterrestres. Et qui du coup sont embarqués par les extraterrestres et développent le modèle féodal partout dans la galaxie. Ça, c'est génial. C'est à mourir de rire. C'est pas tout à fait une uchronie, mais c'est de l'uchronie aussi. Vous avez alors dans les uchronies. Alors d'abord, il y a des uchronies pas sur l'histoire, stricto sensu. Il y a par exemple des uchronies cosmiques. Il y a même Greg Egan qui a fait ça. Alors, donc Greg Egan, c'est un auteur australien extrêmement hard science, très centré sur la science. Alors, je ne sais plus dans quel roman il a fait, mais il imagine que les lois de la physique sont différentes, et donc ça crée des mondes complètement différents. Donc, il y a des uchronies sur la physique. Il faut lire le bouquin de Éric Henriet, L'Histoire revisitée. Il y a des uchronies qui partent directement sur l'histoire de la Terre elle-même, sur l'histoire de la Terre elle-même, qui remonte aux époques géologiques. D'ailleurs, souvent, quand c'est comme ça, l'Uchronie est pas loin du voyage dans le temps. Et on réalise que finalement, les récits de voyage dans le temps sont souvent aussi un peu des Uchronies.
Est-ce que, par exemple, Retour vers le futur est une uchronie?
Bah, retour vers le futur, c'est. Est-ce qu'on peut qualifier Retour vers le futur d'une Uchronie? Alors, avec le jeu sur le paradoxe temporel, oui, on a une dimension uchronique.
Qui modifie son
Il
présent?
modifie son destin, c'est vrai. Il y a Ripley de Ken Greenwood. Ken Greenwood, qui est une super Uchronie individuelle. On pourrait dire non pas une uchronie cosmique, mais une uchronie psychologique, où c'est l'histoire d'un personnage principal qui va revivre sa vie en permanence, et à chaque fois il va faire des choix différents. Et donc il va nous donner un panorama d'uchronie personnelle. Et ça touche beaucoup en général, le public aime bien ça. Les uchronies personnelles, on a beaucoup de films au cinéma. Il y a Un jour sans fin, avec Bill Murray et Andy McDowell. Bon, c'est un film qui commence un peu à vieillir maintenant. Donc voilà, donc oui, il y a des tas d'uchronies qui sont aussi amusantes et qui ne se prennent pas au sérieux. Je regrette, j'ai dû me prendre un peu trop au sérieux tout à l'heure et
Pas du
depuis,
tout.
voilà. Mais j'ai pas été drôle. Mais il y a beaucoup d'uchronies amusantes aussi. Et donc, on trouve de l'uchronie. On n'a pas forcément une uchronie pure. On peut avoir un roman avec des points uchroniques. Ça, il le disait bien, Jérôme. L'auteur n'est pas obligé d'expliquer à chaque fois. Il peut y avoir des uchronies avec 10 points de divergence. Il peut y avoir des uchronies absurdes. Voilà, ou de l'absurde avec des dimensions uchroniques, donc tout ça, c'est voilà, c'est la liberté de l'imaginaire, de la fiction.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, il faut pas figer l'Uchronie dans une mouvance, une tendance, et qu'elle est aussi, c'est un éventail de fiction qui est assez large. Est-ce que vous avez des questions? Oui, plein. Est-ce que Barjavel a écrit des Uchronies?
Dans Ravage, pour ses Ravages, ou Voyageurs imprudents? Stricto sensu, alors si on fait l'Uchronie avec le point de divergence, non. Non, je ne pense pas que Ravage, c'est plutôt une réflexion sur le rapport qu'on a à la technologie, à l'électricité, à la technologie. Le voyageur imprudent, c'est vraiment le paradoxe temporel, c'est la réponse à Wells, à la machine à explorer le temps. C'est vraiment le jeu sur le paradoxe temporel. Donc je ne dirais pas que Barjavel est vraiment fait de l'Uchronie. Non, a priori, non. Mais voilà. Pour trouver une limite. Après, il y a une dimension uchronique. Quand il écrit L'Enchanteur et qu'il redécrit l'histoire de Merlin, on pourrait dire que c'est une uchronie sur la culture, la matière de Bretagne. Voilà.
Oui. À Blois, oui. Alors, il y a donc un festival, peut-être que vous connaissez un festival d'histoire, du livre d'histoire à Blois. Et est-ce que les uchronistes ont été invités?
Je ne sais pas. Mais j'espère que je suis dans un monde uchronique dans lequel ils l'ont été. Voilà.
Oui. Oui, Laurent voilà. Binet.
Laurent Binet, qui est tout à fait un uchroniste, absolument. Je ne sais pas si le mot uchroniste, d'ailleurs, existe. On peut l'inventer. C'est encore un néologisme. N'ayons pas peur des néologismes. Voilà, c'est fait. Ouais.
D'autres question.
Oui.
Alors,
oui,
donc, la question, je ne sais pas si tout le monde a entendu, est-ce que l'Uchronie est liée à uniquement un point de divergence d'histoire collective ou est-ce que ça peut être lié à un point de divergence d'histoire personnelle, c'est ça?
Oui, on l'a dit tout à l'heure, oui, il y a des histoires qui sont uniquement sur des points de divergence personnelle et sur les rapports individuels ou interindividuels qu'on a dans sa famille, dans son histoire. Ça peut être, là, pour le compte, ça peut être une catharsis. Selon si j'ai vécu, par exemple, des violences, pour revenir sur cette question-là, écrire une uchronie où je ne les ai pas vécues, où d'autres l'ont vécu, ça peut être une catharsis, tout à fait. Donc il y a des uchronies individuelles dont le point de divergence est intime, on va le dire comme ça. Et puis, la plupart des uchronies sont des uchronies où le point de divergence est une date d'histoire politique, donc par essence collective. Après, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi qui est amusant, c'est que il y a des uchronies avec des tas de points de divergence, tellement que finalement vous cessez de les chercher. Il y a des uchronies avec des points de divergence qui ont eu lieu il y a très longtemps. Et donc ça, Robert Silverberg, il aime bien faire ça, c'est un grand auteur américain. Il prend un point de divergence assez ancien, par exemple un point de divergence dans l'Antiquité romaine, et puis il nous décrit un monde d'aujourd'hui. Et donc il faut retrouver dans le monde d'aujourd'hui, qui est assez éloigné, hein, regardez comme nous sommes éloignés des Romains, hein, donc voilà, il faut retrouver dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde parallèle qu'il crée, les causes premières lointaines un peu effacées de cette divergence pour essayer de l'identifier. Voilà, souvent sur la religion, sur la culture, sur le droit, les institutions, etc. Et enfin, il y a quelques uchronies, dont Tancrède fait partie, qui racontent un point de divergence en train d'arriver. Moi, ça m'avait amusé de faire ça, c'est-à-dire, on part dans l'histoire, en tout cas, l'histoire, l'historiographie, hein, c'est-à-dire, on part dans des choses qui sont factuellement justes, et petit à petit, on part à la dérive vers un autre monde, mais graduellement. Et il y en a des textes comme ça, il n'y a pas que Tancrède, il y a beaucoup de textes, enfin beaucoup, il y a quelques textes comme ça, qui finissent, le roman finit sur le point de divergence, où le roman montre un point de divergence en cours. Voilà.
Oui.
Oui.
Ah, après madame. Je vous en prie, non, il n'y a pas de souci. Donc là, la question, je reformule parce que je ne sais pas si vous avez entendu dans le fond, donc c'est sur le complotisme. Est-ce que, puisque il a été dit qu'il ne peut pas y avoir de révisionnisme dans l'Uchronie, mais par contre, est-ce qu'il peut y avoir du complotisme, une forme de complotisme?
Alors, merci. Oui, il peut y avoir du complotisme, bien sûr. D'ailleurs, il y en a. Qui vous dit que Laurent Binet n'a pas un agenda caché, vous convaincre de... Il a des idées politiques, lui aussi, hein, comme tous les uchronistes. Hein, donc, non, il peut y avoir une récupération de l'Uchronie. Il peut y avoir une récupération de l'Uchronie. Si on sort l'Uchronie de sa nature de fiction et qu'on la brandit, comme parfois on a fait dans l'histoire politique, dans les combats politiques, on brandit des... Il y a des textes clés qu'on aime bien, les textes clés d'une génération, les textes clés d'un combat, les textes identitaires comme ça d'un combat politique. On peut très bien brandir une uchronie en disant « Mais regardez, regardez ce monde que nous n'avons pas et pour lequel il faut que nous nous battions. Regardez comme on nous ment. Regardez le complot des Illuminati, le complot des francs-maçons, le complot, on peut tout. On peut très bien faire de la récupération complotiste d'une fiction, mais surtout ce qu'on ne doit jamais faire, c'est oublier la nature de fiction du texte. Et malheureusement, dans notre société aujourd'hui, il y a quand même une petite maladie qui est en train de s'installer et qui me stresse un peu, c'est lorsqu'on fait des procès d'intention à des auteurs de fiction, comme si eux-mêmes étaient responsables de l'utilisation qu'on fait de leur œuvre derrière. Un auteur, un romancier ou une romancière écrit un roman, une fiction, et une fois qu'il l'a écrit, il ou elle l'a écrit et que ça a été édité, il n'est pas, on peut pas le tenir comptable de ce que le public va faire de cette œuvre. Et donc, il faut faire attention à ça aussi, parce qu'effectivement, oui, le complotisme, on peut très bien dire « Ah, mais vous avez écrit une uchronie où La République en marche ne prend pas le pouvoir. Dans cette uchronie, étonnamment, le Covid n'apparaît pas. Est-ce que vous voulez dire que La République en marche a favorisé le Covid ?» Non, moi, j'ai juste voulu faire un roman. « Oui, mais quand même, avez-vous pensé à la responsabilité que vous avez par rapport aux enfants ?» Non. J'ai écrit un roman. Et donc, voilà, il faut faire attention à ça. Il y a de l'idéologie dans la fiction, il y en a toujours eu. Mais de là à faire de la fiction la responsable d'une utilisation idéologique ou complotiste du texte lui-même, bon. Mais c'est toujours possible. Donc la réponse est oui.
Vous aviez une question. Donc la question, c'est sur le nom d'Hugo, qui a le même nom. Alors, enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a aussi le pseudonyme pour les nouvelles, mais qui a gardé son nom réel d'universitaire, de personne. Pour Tancred et ses autres romans science-fiction, Uchronie, est-ce que ça pose problème dans l'université? Est-ce que c'est français de garder le même nom pour le côté roman et universitaire, ou est-ce que dans d'autres pays on prend des pseudonymes?
Alors merci. Le jeu sur le pseudonyme, c'est dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays. George Orwell, son vrai nom c'est Eric Blair, donc voilà, c'est un exemple anglais. Moi, j'avais pris un pseudonyme pour oui, vas-y.
Non, mais il y a des gens qui sont étonnés d'apprendre qu'Orwell est un pseudonyme.
Ouais, non, Orwell c'était un pseudo. Moi, j'avais pris un pseudonyme en fait au début par rapport à la fac, parce que je faisais ma thèse. Et puis aussi parce que j'avais fait une soirée pizza. Il y a beaucoup de problèmes avec les soirées pizza. Alors moi, c'était pas à Chambéry, c'était à Cannes. C'était un micro-festival de science-fiction qui s'appelait... alors c'était pas Planète Avant. Planète Avant, c'était le fanzine qui était là. Et en déconnant comme ça, elle avait dit « Oh, si tu prenais un pseudonyme... » Alors moi, j'avais choisi Michael Reis parce que c'était un truc totalement non latin, donc à l'opposé, voilà. Mais aussi ça m'a servi parce que pendant que je faisais ma thèse, donc c'est dans les années au siècle précédent, dans les années 95-96, c'était mal vu d'écrire de la science-fiction, etc. à la fac, en droit, à Aix-en-Provence. Parce qu'à Aix-en-Provence, attention. Voilà. Mais c'était aussi un jeu que j'ai gardé ensuite parce qu'on s'amuse. Non, c'est pas spécifique à la France. On n'a plus besoin aujourd'hui de se protéger ou de se cacher derrière un pseudonyme. Lorsque quelqu'un le fait pour se protéger, c'est généralement quelqu'un qui a un poste politique très important et qui va choisir de ne pas, qui va choisir lui de ne pas, de ne pas se faire connaître lorsqu'il écrit des romans uchroniques, érotiques, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais sinon, non. Sinon, c'est un jeu qui est assez répandu. Et je continuais, moi, à jouer avec ça. De temps en temps, je réécris sous Michael Reis. c'est amusant, tout simplement. Voilà.
Par contre, une question subsidiaire qu'on pourrait poser, même si tu as dit que les historiens aujourd'hui se penchaient un peu plus vers l'Uchronie, est-ce que le fait d'avoir écrit de la science-fiction et de l'Uchronie ne te vaut pas quelques regards un peu hautains parfois de l'université? Je pense, ça j'ai oublié son nom aussi, mais j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un universitaire spécialiste du roman policier, du roman noir aux États-Unis, qui me disait très bien que même si l'université s'est ouverte à ces littératures dites de genre, malgré tout, le fait de travailler dessus lui vaut un certain nombre de réflexions un peu méprisantes.
Oui, alors si, 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 même aujourd'hui. Bon, après, c'est très. On l'accepte quand on est dans un milieu professionnel, on accepte les vicissitudes de ce milieu professionnel. Bon, si, c'est vrai, si. Si, si, le fait d'avoir écrit des textes de science-fiction a pu m'empêcher, par exemple, d'avoir un regard plus confiant ou plus objectif de certains de mes collègues. C'est pas la majorité. On passe parfois un peu pour un rigolo, pour un fanfaron. Voilà. Moi, j'aime bien passer pour un fanfaron. Mais il y a un prix à payer encore un peu. Il y a un petit prix à payer encore un peu aujourd'hui pour l'éclectisme, la différence qu'on peut représenter, mais qui est pas si important que ça quand même. Hein. C'est-à-dire que je ferai jamais partie de ceux qui disent si j'ai échoué, c'est parce qu'ils m'ont reproché de faire de la science-fiction. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a dans le monde universitaire qu'il y a beaucoup de défauts, mais il y a quand même le respect du travail intellectuel. Et donc, il y a pas. Moi, j'ai jamais été méprisé pour avoir fait de la science-fiction. Mais malgré tout, il y a encore une petite tendance de certains à considérer que tiens, il s'est un peu éparpillé avec ça, quoi.
Ma mémoire est arrêtée. Demain, j'ai retrouvé le nom de l'universitaire, c'est Benoît Tadier, qui a écrit d'excellentes choses sur le polar américain. D'autres questions, ou une ou deux encore, parce qu'après, on va bientôt être obligé d'arrêter.
Dit qu'on mangeait à 13h.
Y a
Ah oui, il y a
l'inauguration, alors.
l'inauguration. Ah oui,
C'est sérieux. Là, c'est sérieux. Pas d'autres questions? Alors, moi j'en ai une toute dernière avant que vous nous lisiez un petit extrait très court.
Ah, bon, c'est pas obligatoire, hein,
Si, si,
non, non.
c'est bien de terminer là-dessus parce que vous avez créé un dialogue entre l'Uchronie et l'histoire qui est assez amusant. L'une et l'autre se charrient abondamment et finissent quand même par se réconcilier parce qu'elles sont, comme vous l'avez dit, les deux faces d'une même pièce. Puisqu'on est aussi là pour prendre des références, dans les dernières uchronies, peut-être que vous avez pu lire, est-ce qu'il y a un ou deux ou trois romans que vous pourriez nous conseiller?
Alors, les romans que je peux conseiller, alors il y a beaucoup de romans. En fait, moi, je suis assez strict au niveau de lecture, c'est-à-dire que c'est rare que j'ai des coups de cœur complets, vraiment. Alors, il y en a un qui est absolument fabuleux sur l'Algérie, c'est Rêve de gloire de Roland C. Wagner. Donc, c'est un roman merveilleux, voilà, merveilleux, d'un auteur qui malheureusement nous a quittés prématurément. Dans les Uchronies que je considère un peu incontournables, alors tu citais Pavane de Kate Roberts, évidemment, mais alors il y a des auteurs d'Uchronies un peu chiants, donc je vous les déconseille. Je vous
Des
ferai une
noms, des noms.
liste.
Une blacklist.
Voilà, je vous ferai une blacklist. Aucun de ces auteurs n'est dans la salle. Voilà,
Donc,
rassurez-vous. Enfin, à part moi,
Del
peut-être.
Socorro.
Rassurez-vous. Mais non, alors parmi. Alors, j'aime beaucoup, du côté des auteurs français, pour quand même faire lire des auteurs français, j'aime beaucoup le cycle de La Lune, seule le sait, de Joan Hélio, évidemment. Évidemment, il y a les romans de Jean-Laurent Del Socorro. Mais pour moi, Jean-Laurent Del Socorro n'est pas stricto sensu un auteur d'Uchronie. C'est un auteur qui joue avec la trame historique et il le fait magnifiquement bien. Moi, j'ai un coup de cœur, mais tout le monde le sait, enfin, ceux qui l'ont lu et qui l'ont critiqué, qui l'ont chroniqué, c'est Royaume de vent et de colère que j'adore absolument sur les guerres de religion, qui est absolument magnifique. Mais alors, parmi les uchronies les plus classiques et qui me sait. Alors, étrangement, je vous conseillerais pas nécessairement Le Maître du Haut Château. Parce que sa lecture n'est pas non plus renversante. C'est-à-dire que Philippe K. Dick n'est pas un auteur, c'est pas un auteur qui a les meilleurs, Les meilleurs retours au niveau du style, au niveau de la manière de vous emporter. Par contre, il est intellectuellement très puissant. Donc, Le Maître du Château, c'est un classique, mais ce n'est pas forcément l'Uchronie qui va vous renverser. La meilleure Uchronie, difficile. Moi, bon, il y a un jeu que j'aime bien sur l'Uchronie, c'est. Alors, je vais citer Stephen King. Parce que quand on veut être emporté, moi je cite Stephen King, donc c'est l'Uchronie qu'il a écrit sur JFK, sur l'assassinat de JFK, donc, qui s'appelle, le titre c'est la date, hein, 22 novembre 1963,
Qui est paru il n'y a pas longtemps là.
voilà, qui est très 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 chouette et qui joue beaucoup avec l'Uchronie. Donc voilà, Rêve de gloire pour les auteurs français de Roland C. Wagner sur l'Algérie et le roman de Stephen King.
Mais ça nous fait déjà pas mal.
Et oui. Et la trilogie de la Lune de Joan Elio.
D'ailleurs,
Tout ça est disponible en poche, en numérique, pour des sommes dérisoires qui valent largement.
ou sinon en bibliothèque aussi, hein.
Ou en bibliothèque. Ah oui, en bibliothèque. Absolument. Ouais. Allez en bibliothèque avec les
Et en
masques.
sorte de documentation, etc. Avec les masques. Alors, peut-être. Il y avait.
Oui?
Non? Oui? Je crois que quelqu'un allait ajouter quelque chose, non?
Oui.
Oui?
Absolument. Non, je me suis mal exprimé. Hein. Je me suis mal exprimé. Il n'y a pas d'opposition entre l'Uchronie et la science. Ce que j'ai dit, c'est que l'Uchronie a été victime de son rapprochement avec la science-fiction. Et du coup, quand il y a eu une sorte de discrédit de la science-fiction, bah, l'Uchronie est partie avec, en quelque sorte. Mais il y a de la science dans l'Uchronie. Et bien souvent, dans Joan Elio, par exemple, hein, dans la trilogie La Lune seule le sait, il y a toute une logique sur l'anticipation technologique qui est permise dans le monde parallèle de Joanne. Et donc, il y a toujours une dimension scientifique. Et même d'ailleurs dans Renouvier, hein, donc l'Uchronie, qui invente le néologisme Uchronie, il y a une dimension technologique et scientifique dans sa république. Qui redevient son empire, qui redevient républicain, il y a une accélération technologique parce que la religion a moins d'importance et qui part du principe que la religion interfère avec la science, une vieille idée du 19e siècle maintenant dépassée. Et du coup, il y a une accélération. Donc la dimension technique est toujours présente. Et mieux que ça, vous l'avez très bien dit, le jeu sur l'hypothèse, c'est un jeu qui est aussi commun à la réflexion scientifique et à la réflexion uchronique. Et d'une certaine façon, si on va sur les sciences sociales, ben, il y a tout à fait un lien aussi entre le jeu sur la sociologie et le jeu sur l'Uchronie, les hypothèses sociologiques ou anthropologiques que l'on peut faire et que l'on retrouve dans les hypothèses uchroniques que l'on peut formuler. Ouais, tout à fait. Donc je m'étais très mal exprimé tout à l'heure. Merci d'avoir rectifié.
Alors, ce petit dialogue entre l'histoire et l'Uchronie que vous avez écrit pour justement placer un certain nombre de réflexions sur la différence et ou la similitude entre histoire et Uchronie.
Bon, on lit juste le début, hein, parce que je sens que le cocktail approche. Et si nous rations le cocktail, ça se passerait mal. Donc,
Ah, qu'est-ce que ça pourrait induire si
ah ben
nous
non, non,
rations
moi
le
je veux le
cocktail?
cocktail. Hein. Moi je me suis levé à 5h30 ce matin pour
Donc,
vous rencontrer et pour avoir le cocktail. Non, c'est
malheureusement,
pas
nous n'aurons
vrai.
pas d'Uchronie
Cocktail.
cocktailière.
Arrêtez d'imaginer les universitaires avides de cocktail parce que c'est vrai. Il n'y a rien de pire qu'un universitaire entre deux sessions de colloque. C'est un loup. Pour l'universitaire. L'universitaire est un loup pour l'universitaire. Sur le cocktail, tout le monde se jette. J'ai jamais rien mangé dans les cocktails, c'est pas possible. Alors, je vous lis juste le début très rapidement. C'est rigolo parce que c'est juste un texte que j'ai écrit pour un article que j'arrivais pas à faire. Et j'ai demandé à l'organisateur de colloque, ça t'embête si je fais une nouvelle? Et il m'a dit non, vas-y. Voilà, donc pour vous montrer que quand même les choses ont changé. Alors, un matin hors du temps, l'histoire se tenait désœuvrée sur la margelle d'un puits. Elle observait d'un air distrait les reflets fugaces qu'un soleil caracolant vers son zénith suscitait sur l'eau croupissante des civilisations disparues. Elle s'ennuyait ferme. L'Uchronie, pardon, parut d'humeur badine et elle harangua sa vieille amie. Que t'arrive-t-il, l'histoire? Serais-tu à court de théorie? L'histoire feignit l'indifférence. Point du tout. Tu vois, je dénombre les événements expliqués. L'Uchronie se pencha à son tour et scruta le fond du puits. Ah oui, je les vois. On dirait des araignées d'eau qui s'agitent en vain. L'histoire soupira, ne goûtant guère le mépris qu'impliquait la remarque de son amie. Elle décida de contre-attaquer. Dis-moi, espiègle narratrice, aurais-tu déjà cassé tous les outils que je t'ai prêtés pour que tu viennes jusqu'à ce puits pour m'importuner avec tes analogies ? Bien sûr que non, pour qui me prends-tu ? Bah, je sais pas, une éternelle adolescente en quête de nouvelles expériences ? Voilà un bien drôle de préjugé, dit Lucrenie. Je te rappelle que j'ai quand même plus de 140 ans. Je suis né sous la plume de Louis Geoffroy, et c'est un philosophe républicain, Charles Renouvier, qui m'a baptisé en 1857. L'histoire haussa les épaules qu'elle avait chargées d'un lourd manteau. Jeunette, va. Moi, je suis né avec les premières cités et les premières écritures, il y a plus de 12 000 ans. Ah, c'est imbattable, dit Lucrenie, tu es la plus vieille. Avec un petit soupçon d'ironie, elle s'adossa à la margelle du puits et sembla se désintéresser des faits. Toutefois, reprit-elle, si je voulais être de mauvaise foi, je dirais que ma naissance aussi, finalement, remonte à l'Antiquité. Tiens, c'est un historien romain, Tite Live, qui fut le premier à imaginer ce qui se serait passé si Alexandre le Grand s'était intéressé à Rome plutôt qu'à la Bactriane. Oui, Ravier Négrété a tout pompé. Rêveuse, Lucrenie se mit à réfléchir à voix haute comme si l'histoire n'était plus là. Certains auteurs plus tardifs ont repris d'ailleurs cette idée. Si Alexandre avait affronté les glaives des légions romaines, est-ce que les sarisses des phalanges macédoniennes auraient-elles suffi pour vaincre ? Si Alexandre avait conquis Rome, aurait-il maintenu la République ? Aurait-il laissé les assemblées voter les lois ? Aurait-il garanti le droit des citoyens romains ? Ou, cédant à la tentation du pouvoir, aurait-il lui-même fondé un empire, promulgué des édits, comme ses lieutenants qui, après sa mort, utilisèrent les institutions qu'ils trouvèrent en Égypte et en Mésopotamie et se déclarèrent, sans crainte, pharaon ou satrape. Malgré elle, l'histoire était amusée, un peu admirative presque. « Je vois, dit-elle à Lucrenie, que tu as quand même su manipuler les outils de la boîte que je t'ai laissée. Tu manies bien les cités et les empires, les civilisations, les grands hommes et les grands drames, les guerres, les traités, les dates et les mythes. Oh, merci, dit Lucrenie à l'histoire, tu me fournis la matière première de mes récits. Personnages, décors, peuples, coutumes, lois, systèmes de valeurs, crises politiques, révolutions, insurrections, et même de petites révoltes de palais. Sans toi, histoire, je n'aurais pas pu écrire une seule ligne, ni rendre mes récits épiques. Tu es, disons, comment te définir ? Ton institutrice, peut-être ? Non, tu es mon inspiratrice, dirais-je. Bon, je m'arrête là.
Merci. Et on peut, je crois, retrouver le dialogue sur Internet. Oui, on arrive à le retrouver. Voilà. Merci, Hugo Bellagamba, pour
merci à vous.
Ces propos.
Ravi d'être venu vous voir.
Donc, on se retrouve à 14h. Alors, on n'a pas trop parlé de Tancrède parce que j'ai supposé que peut-être il en serait question après cet après-midi. Donc, on se retrouve, vous retrouvez à 14h avec Laurent Binet sur le thème de Quand l'histoire échange avec la fiction, qui sera animé par l'ami Yann Nicole. Et puis, en deuxième partie, à 15h30, deux premiers romans qui explorent l'histoire de Christine de Mazières et d'Alexandre Duyck. Et puis, tout le week-end, les extras du festival, auxquels on espère bien que vous allez vous rendre également nombreuses et nombreux. Merci. Bonne fin de journée.
Merci à tout le monde. Merci. Et merci à toi.